Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Caroline Rigel est simplement incroyable. Ingénieure hydraulique, mais aussi grande voyageuse, membre de la Société des explorateurs français, elle a déjà publié 3 bouquins. Caroline Rigel sait s'arrêter, contempler, nouer des liens d'amitié, ce qui l'amènera à passer les 6 mois de l'hiver avec des nonnes bouddhistes dans la vallée du Zanskar. Suite à une promesse faite à ses nonnes, Caroline prépare un nouveau départ. Cette fois, c'est pour accompagner ses amies les nonnes, qu'elle guidera à travers l'Inde, pour qu'elle aussi puisse découvrir les lieux qui ont pu alimenter leurs rêves. Donc on va parler d'un projet qui un peu fou, qui est né, déjà comment est né ce projet, et puis présente-nous ton projet, Caroline.
Eh bien, c'est né d'une promesse, une seconde promesse que j'ai fait à des nonnes de la vallée d'un village de la vallée du Zanskar, une vallée himalayenne située au sud du Ladakh, entre le Tibet et le Cachemire, où j'ai passé un premier hiver il y a quelques années, dans le cadre d'un long voyage à travers l'Asie au fil de l'eau. Au cours de ce premier hiver, j'avais appris les gestes quotidiens, j'avais vécu beaucoup dans un village qui s'appelle Tongri. J'avais enseigné à l'école gouvernementale, puisqu'en hiver, il n'y a pas toujours tous les profs à l'école. J'avais aussi enseigné aux nonnes, puisque un des profs de l'école de Tongri, justement, enseignait le soir aux nonnes. Et c'est ainsi que j'ai fait connaissance donc avec ces nonnes, avec les villageois, les écoliers. Et puis, à la fin de l'hiver, après 6 mois passés donc aux Zanskar, en quittant, les nonnes étaient un peu en larmes et j'ai promis une première fois de revenir aux Zanskar, une fois, dans les 2 années qui suivaient mon retour. Ce que j'ai pu faire, j'ai eu la chance de pouvoir faire, donc je suis retournée en 2007, toujours en hiver, et j'ai réenseigné à l'école gouvernementale, j'ai réenseigné un peu d'anglais aux nonnes, j'ai surtout passé un peu plus de temps avec elles. Et puis ensuite, j'étais basée à Grenoble, je retravaillais dans mon domaine de barrage, dans la foulée. Et là, un hasard de rencontre, le Zanskar est quand même une petite vallée, donc si les habitants s'y connaissent assez facilement, on est amené à rencontrer assez facilement les étrangers, notamment les Français, qui sont liés d'une façon ou d'une autre aux Zanskar. Et donc j'ai ainsi fait connaissance de l'association Rencontre au bout du monde, RBM, qui est un voyagiste solidaire équitable, qui a commencé en fait son activité aux Zanskar, par un hasard de rencontre aussi, et qui se retrouvait à avoir des fonds communautaires, des fonds villageois, des fonds de développement de par leur activité, de par leur fonctionnement et les premiers voyages qu'ils avaient été amenés à faire aux Zanskar. Seulement, ils cherchaient quelqu'un qui pouvait les aider à suivre un petit peu, à suivre les projets, à suivre un petit peu les villages qui allaient recevoir ces fonds, à comprendre un peu ce qui se passait de façon interne. Et les guides n'ont pas le temps quand ils amènent un groupe. Je les ai rencontrés à Grenoble. Il se trouve que quelques-uns des membres actifs étaient à Grenoble. J'ai été assez impressionnée par l'état d'esprit des gens du CA de cette association. Et mon boulot, je travaillais avec Sogrea à l'époque, m'a permis de reprendre l'année suivante des mois sans solde pour retourner aux Zanskar et essayer d'aider un petit peu RBM dans cette démarche. Très bien. Moi, je parlais la langue, donc c'est vrai que c'était un atout pour pouvoir suivre ça.
Donc là, il est question d'aller voir les différents projets mis en place par RBM dans la vallée du Zanskar.
Oui, c'était de voir les différents villages et de comprendre un petit peu l'état d'esprit de chacun des villages, de suivre un petit peu les projets qui avaient été annoncés, de voir comment étaient gérés, de comprendre un petit peu à chaque fois dans le fond tout ce qui était lié à ces villages et surtout au fonds de développement ou au fonds de communautaire distribué par RBM. Donc ça m'a fait une plongée, donc là je suis retournée plutôt en été, et ça m'a un petit peu plongée dans le Zanskar moderne, ce que je n'avais pas forcément vécu le premier hiver, où c'était plutôt le Zanskar ancestral, le Zanskar ancien, le Zanskar tibétain, reclus, isolé dans son hiver, et qui m'avait permis d'apprendre la vie quotidienne, les gestes quotidiens. Là j'ai plutôt côtoyé le Zanskar plus moderne, les autorités, les associations, tout ce qui touchait aux Zanskar de près ou de loin, en fait, pour comprendre tout un contexte, hein, et pouvoir faire au mieux avec les moyens de RBM, justement. Sauf que ça m'a amené à revoir les gens avec lesquels j'avais passé du temps la première fois, notamment les villageois, les écoliers et les nonnes de Tongri. Me retrouver impliquée là-dedans, forcément, ça s'inscrit dans une certaine durée. Et finalement, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre des congés sans solde tous les ans, ces 3 dernières années. Donc, je suis retournée 3 années de suite pour aider RBM, principalement aux Zanskars. Je me suis retrouvée aussi à essayer d'aider un petit peu à monter un projet pour un canal d'irrigation pour Pichou qui avait des problèmes d'eau. Sogré était partant pour financer en partie. Et finalement, le gouvernement a repris, donc c'était très bien. Mais au fil des années et du temps passé avec les nonnes, on va dire une sorte de rêve qui m'avait effleuré au départ. Je veux dire, je passais du temps avec les nonnes, j'ai appris la langue, donc forcément on passe des soirées, on parle du monde. C'est un voyage qui m'avait amené à elles, je leur parle de ces coins du monde. Mais on avait sans doute rêvé quelque part ensemble, parfois de voyager. Ça commence par « ce serait si bien si vous pouviez venir voir mon pays aussi ». Elles n'ont pas de passeport, donc il y a des rêves qui s'excluent d'eux-mêmes assez rapidement. Ou en tout cas au court terme. Et puis, en fait, de retourner donc, les 3 dernières années m'a permis de, par contre, cette fois, construire le rêve d'emmener ces nonnes faire un voyage à travers l'Inde. Par chance, l'Inde est très vaste, bien assez variée sur tous les plans, que ce soit culturel, géographique, religieux, historique, et certaines n'ont jamais quitté la vallée, d'autres ne sont allées qu'à Varanasi ou Bodh Gaya, des lieux bouddhistes, et elles n'ont pas voyagé tout ensemble de la sorte. Et donc c'est quelque chose, c'est un voyage qu'on a naturellement rêvé ensemble, que j'ai fini par vraiment leur promettre il y a à peu près maintenant 2 ou 3 ans, et que j'ai pris le temps d'intégrer dans ma vie professionnelle, dans ma vie financière. Et puis là on en arrive à quelques jours d'un départ qui est devenu une réalité pour elle comme pour moi.
Tu parles du mot promesse, c'est vraiment autour d'une discussion dans les soirées que tu as pu passer avec elle dans le Zanskar où vous avez rêvé ensemble de faire le tour de l'Inde, aller découvrir différents lieux, tu leur as promis, et là maintenant, ça y est, cette promesse devient réalité.
Oui, c'est exactement ça, oui. C'est vraiment ça. On a vraiment, oui, on parlait du monde ensemble, on parlait, je me souviens de soirées où on riait aux larmes parce qu'on imitait un défilé de mode et elle se voyait en en descendant au village comme des top modèles qui se dandinaient derrière, parce que je leur expliquais que c'était une façon de marcher particulière, que chez nous on avait des mini-jupes. Enfin, c'est parti de choses comme ça où on rit, et puis après de discussions plus sérieuses où on parle, et puis elles voient la télé, puis elles ont vu ci, elles ont vu ça, ou moi j'ai un livre et je leur parle de ci et de ça. Et puis c'était un voyage en pensée, c'était un voyage en mots, et puis forcément on allait passer un moment un voyage physique. Sauf que là, elles savaient bien qu'elles ne pourraient jamais assumer ça seules, d'abord parce qu'elles n'ont pas de ressources, parce que la nonnerie n'a guère de ressources. Donc ça, c'était presque évident dès le départ que si on voulait faire un voyage ensemble, ce qui nous réjouissait d'emblée, enfin, je veux dire, c'était presque une évidence. Par contre, il allait falloir que je l'assume. Et après, c'était ben, où et quoi et si moi, j'ai plaisir à les emmener dans des lieux bouddhistes, je ne me sens pas forcément complètement légitime à leur offrir un pèlerinage au sens vraiment profond du terme. Parce que je ne suis pas bouddhiste moi-même, parce que je n'ai pas forcément les relations, les compétences pour ça. Par contre, un voyage, une sorte de voyage de vie, de découverte au sens large de leur pays, là, je me sentais beaucoup plus à même de leur offrir ça.
Alors le Zanskar, on entend de plus en plus parler comme étant une vallée inaccessible durant les mois d'hiver, des villages reculés. Aujourd'hui, ça paraît facile de voyager, de se déplacer, surtout dans le mode de vie où on prend le train, la voiture, mais dans ces endroits-là, au fond du Zanskar, est-ce que les gens sont encore ancrés dans leur village? Est-ce que les échanges existent? Est-ce que les nonnes ont l'habitude de quitter le Zanskar pour voyager à travers l'Inde? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement exceptionnel?
À travers l'Inde, pas forcément, mais de plus en plus de Zanskarpas vont en Inde, surtout en hiver, notamment là avec le Kalachakra, l'enseignement du Kalachakra du Dalai Lama à Bodh Gaya. Il y a énormément de Zanskarpas qui sont partis pour aller au Kalachakra à Bodh Gaya. Donc ça se fait. Et la différence de vie entre l'hiver, quand le Zanskar est sous la neige, et l'été, elle est radicale. Aujourd'hui, il y a le téléphone portable, il y a des pistes, de plus en plus de gens ont des voitures, il y a Internet à Padoum. Donc c'est la vie estivale est moderne tout en étant quand même à une journée de pistes, en passant par un col du premier village qui, lui, il est un peu plus, mais donc, il y a une forme d'isolement ou plutôt de recul imposé par la géographie. Aujourd'hui voit en été un déferlement de touristes indiens, hein, pas seulement étrangers, donc c'est énorme. Par contre, en hiver, on accède aux Zanskars que pendant les 2 mois du fleuve gelé, du Tchadar. Les pistes sont fermées pendant plusieurs mois, on ne quitte pas forcément le Zanskar un mois ou avant, un mois, 2 mois après, selon la neige. Cette année, il n'y avait pas de neige jusque-là maintenant, jusqu'il y a quelques jours. Donc les pistes étaient praticables, au moins à pied, hein, parce qu'après il y a de la glace, il y a les problèmes de glace, il y a eu un accident tragique d'un bus en novembre là. Mais c'est vrai que ça impose de fait un mode de vie qui se rapproche quand même d'une vie plus ancestrale. L'été c'est différent, c'est complètement différent. Donc à la fois aux Zanskars, on côtoie une forme de modernité, de volonté de modernité, limitée par des réalités. Mais on tend vers, on avance, la piste du Tchadar, elle avance chaque année un peu plus, elle les lira à aller directement, et ça va encore faire un chamboulement, mais un chamboulement qu'ils veulent, ils sont pas en train de se battre pour pas, comme certaines ethnies ailleurs se battent pour que le modernisme ne les atteigne pas. On n'est pas dans cet état d'esprit aux Zanskars du tout. Tout le monde veut la piste. Le Zanskar, c'est une forme de vallée triangulaire qui se prolonge par 3 bras. Donc à l'est et à l'ouest, on va vers des cols. À l'ouest, il y a une piste qui va vers Kargil. À l'est, il y a un col qui va vers Manali et la piste ne va pas encore au bout. Et les villages attendent la piste, là, en l'occurrence. Mais elle est en construction, elle avance. Et au nord, donc, on va jusqu'au bout, il y a une piste qui va jusqu'au bout, mais après, ce sont des gorges impraticables en été. Par contre, l'hiver, c'est des gorges très, très serrées, hein, le fleuve est partiellement gelé. Et donc, il offre une sorte de piste de glace qui permet d'aller vers l'Ay. Maintenant, ça reste par moins 10, moins 20, moins 30 degrés. Ça reste, si neige, un couloir d'avalanche. C'est pas rien non plus, quoi. C'est pas une petite promenade de plaisir, forcément, selon les conditions. Donc oui, effectivement, le Zanskar est dans un certain isolement imposé, mais ils sont en phase avec Leh, le Ladakh, qui, elle, est une ville beaucoup plus grouillante. où il y a un aéroport, où il y a et puis le Zanskar fait partie de l'Inde. Les habitants, même s'ils sont d'abord Zanskarpa, d'abord Ladakhi, ils se sentent indiens. Ils ne sont pas du tout en rejet de l'Inde, de l'état d'esprit dans lequel est l'Inde, c'est-à-dire voilà, une démocratie qui se veut moderne et qui se veut dans la course du monde. Donc, je pense que les Zanskarpa, tels que moi je les ai vus, surtout l'élite qui a accès à l'éducation aujourd'hui, sont dans cet état d'esprit. Les anciens ou certaines personnes voient bien qu'avec tout ça, il y a une forme de solidarité qui était imposée, je pense, par la nature, par la nature surtout, par la spiritualité bouddhiste un peu aussi, mais ils sentent bien que ça change, ça, l'équilibre est plus... Voilà, il y a des déséquilibres qui s'exacerbent, il y a des écarts qui se creusent. Ils le sentent bien, ils le regrettent un peu, mais il y a autre chose. La vie est quand même un peu plus facile qu'avant, et ça, ils le regrettent pas forcément, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mais on va revenir sur ce rêve que tu vas réaliser, donc le rêve de ces nonnes. Le départ est imminent. Donc tu vas bientôt retourner aux Zanskar pour retourner dans ce village, dans cette nonnerie, et pour effectuer un voyage à travers l'Inde. Donc vous partez à combien? Quel est l'itinéraire?
Là, je pars donc au cœur de l'hiver, donc je vais devoir remonter le fleuve gelé justement pour arriver aux Zanskar, récupérer, donc finir de préparer avec les nonnes. Donc 7 nonnes sont aux Zanskar actuellement, les 3 plus vieilles sont allées pour pas avoir à faire le fleuve gelé, ce qui serait physiquement trop dur pour elles. Et la plus vieille, qui a près de 80 ans, n'ose pas venir quand même, finalement. Même si elle avait dit au départ, vous m'emmenez, je meurs en route et je mourrai heureuse, et vous le direz à la famille, au retour, finalement, quand même. Parce que c'est pas rien, on part 3 mois, 3 mois où il va falloir utiliser les transports en commun, 3 mois où on fait un tour au sens très large du terme, de l'Inde. On va au Rajasthan, Delhi, Rajasthan, Agra, Bhopal, le centre, Sanchi, qui est un des plus vieux stupas bouddhistes. Puis on descend sur Bombay, puis on descend dans le Kerala, Karnataka. Il y a des monastères bouddhistes là-bas. Et puis un peu de tourisme dans cette belle région du sud que personne ne connaît, aucune de nous ne connaît. Puis on va donc sur Pondichéry, Chennai, on va s'arrêter à Aurobindo par exemple, ça permet de voir toute cette diversité, on va dire spirituelle ou religieuse. Puis on continue, donc on prend le cargo pour aller dans les îles Andaman, au cœur du golfe du Bengale. Puis on va à Calcutta, on va essayer de passer un peu de temps au mouroir des femmes de rue de Mère Teresa. Ensuite, de Calcutta, on va au Sikkim. Donc là, on est dans une région cousine, mais de l'autre côté du Népal. Donc avec forcément ces différences, et je pense que ça peut être intéressant pour elle de voir aussi comment est la dynamique du Sikkim. Puis on va forcément à Bodh Gaya, Varanasi. Khajuraho, donc les fameuses sculptures de comment on appelle ça, du Kama Sutra. Puis si on a encore le temps, donc on monte aux sources du Gange. Là on est plutôt dans un pèlerinage hindou, Dharamsala pour finir, et puis on rentre donc aux Zanskar pour faire début juin, pour faire le mois de prière qu'elles font d'ordinaire en janvier-février et qui est inscrit à l'agenda annuel de la nonnerie et qui représente un mois de prière, de méditation, toutes ensemble, où les villageois, la famille, les amis défilent pour faire des offrandes et où elles vont forcément entre deux prières partager avec un peu de recul ce voyage un peu particulier.
Vous avez dessiné ce voyage ensemble, comment s'est passé l'itinéraire? Est-ce que chaque nonne a dit, tiens, moi j'aimerais bien, moi ce serait Bodh Gaya, moi plutôt Varanasi, ah non, j'aimerais bien aller à Calcutta? Comment ça s'est fait? Comment est-ce qu'on a choisi les destinations?
Moi j'étais aux Zanskar il y a maintenant un an et quelques mois, donc le projet se dessinait concrètement, doucement. Elles me font confiance, elles m'ont fait confiance, elles ont le dossier entre les mains aujourd'hui. Elles savent qu'on ne va pas que dans des lieux bouddhistes, mais c'est plutôt moi qui ai dessiné l'itinéraire, sachant que là, je vais passer 3 semaines aux Anskars avec elle et qu'on va se plonger dedans et qu'on va valider ça tout ensemble. Mais je pense que quelque part, si moi je leur offre ce voyage, et il y a 2 jeunes du village également qui vont d'abord m'assister, m'aider, et puis qui feront, qui sont toujours fourrés avec les nonnes, avec lesquelles j'étais beaucoup aussi, qui sont dans un état d'esprit toujours très positif et très drôle, et qui pour moi, ou plutôt j'espère en fait qu'ils assureront une forme de dynamique au retour entre le village et la nonnerie, en s'appropriant un peu de ce projet aussi. Si moi, je leur offre ce voyage, je pense qu'elles, quelque part, elles m'offrent leur confiance.
Ce qui est superbe aussi dans ce que tu racontes, c'est la générosité de ce rêve, de ce projet, parce que tu donnes de ton temps et tu donnes aussi de ton argent. C'est toi qui vas financer l'ensemble de ce projet.
Oui, mais après, je me suis pas posé 1000 questions. C'est venu assez naturellement, ces femmes... m'ont beaucoup apporté, m'ont beaucoup marqué. Elles n'ont pas eu, enfin, elles n'ont pas beaucoup de ressources. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir. J'ai eu la chance d'en avoir ces 2 dernières années aussi. C'est 6 mois de bonheur. Donc après, peu importe. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Il faut trouver les choses là où elles sont. Donc, c'était assez simple finalement.
Tu te libères 6 mois de ton temps, là. Tu arrêtes ton boulot pour pouvoir aller rejoindre ces nonnes et voyager avec elles. Tu fais un break, enfin, tu coupes
oui,
tout.
Oui, je fais un break dans mon boulot, j'ai mis 30 000 euros de côté. C'est sûr que c'est pas rien, tout le monde peut pas forcément. Moi, j'ai eu la chance d'eux, donc tant mieux, quoi. Tant mieux pour elles, tant mieux pour moi, tant mieux pour ce voyage.
Alors, ce voyage, tu pars avec aussi des jeunes, parce qu'il y a un projet derrière pendant le voyage. Tu pars aussi avec une caméra.
Ça s'est greffé un petit peu dessus. C'est vrai que quand j'ai fait mon projet, ma traversée de l'Asie, j'ai eu la chance de prolonger l'aventure par une aventure d'écriture et d'écrire de livres, de ressentir ce que pouvait être la force de l'écrit, de ce voyage prolongé qui te permet de digérer, d'aller plus loin finalement dans le voyage. Je savais bien que j'avais toutes les chances d'avoir envie d'écrire sur un tel projet, sauf que écrire, c'est en français. Imaginons que ce soit en anglais, les nonnes ne lisent pas l'anglais non plus, certainement pas le français. Donc quoi que je fasse dans le domaine de l'écriture, les nonnes n'y auront jamais accès, jamais. D'avoir un film de ce voyage-là, c'est imposé assez vite, hein, parce que parce qu'aux Oscars, on a déjà la télé, ils savent déjà ce que ça représente, l'image, et j'ai bien vu qu'ils y étaient très sensibles. Et ça leur parle. Or là, moi, je parle leur langue, j'ai appris l'ourdou entre-temps, enfin, qui a 70% l'hindi. Donc ça, un film, ça va être forcément dans leur langue. Si c'est dans leur langue, si c'est leur pays, ben c'est quelque chose qu'elles vont assez facilement pouvoir partager en fait avec leur famille, avec les autres villageois, avec les autres nonneries. Je ne peux pas emmener tout le monde. Mais de pouvoir partager derrière, ça permet, voilà, ça permet de ne pas garder quelque chose comme ça de façon un petit peu égoïste malgré soi. Donc l'idée d'un film, ce n'est pas seulement de faire un film et de pouvoir le présenter ici, c'est quand même aussi parce que c'est quelque chose qu'elles peuvent s'approprier, que les deux jeunes du village peuvent s'approprier. Et ça, c'est très, à mon sens, très important, parce qu'aussi, c'est une déferlante de touristes indiens qui va arriver bientôt. Elle est déjà allée en été, c'est impressionnant, depuis 2 ans. Ça viendra aux Oscars avec la piste. Et les nonnes, quand je les ai vues réagir face au tourisme étranger et se sentir un peu comme des ânes parce qu'elles parlent pas anglais, parce qu'elles n'ont pas eu d'éducation, parce qu'elles se sentent si loin de ce qui leur défile, ce qui défile devant leur porte, j'ose croire qu'avoir fait un tour de leur pays, qu'avoir un film dans les mains, ça leur permet. C'est une sorte de porte d'entrée, d'échange et de partage avec ces gens qui vont défiler. Et ça, c'est pas rien. Ça va dans le sens de leur éducation, quelque part, ou d'une certaine forme d'éducation. Et peut-être aussi qu'avoir un film permet plus facilement, puisque c'est un support moderne, déjà de comprendre les revers de ce support moderne. Et pour elle et pour moi, j'ai entendu des Oscarpas regarder la télé et voir que les gens qui étaient mis en lumière étaient forcément des gens bien, parce qu'ils étaient sous les projecteurs. C'est quand même, ça me semble un peu plus compliqué que ça. Et trimballer une caméra sur un voyage comme ça, c'est pas anodin. Ça permet quand même de voir ce que ça représente. Mais au-delà de ça, c'est un support moderne qui peut éventuellement déclencher des dynamiques, ramener des fonds, et qui peuvent servir, là, par contre, aux nonneries du Zanskar, à leur éducation. Je dirais que là, c'est une direction d'aventure que l'on impose à l'aventure du film, en tout cas. Est-ce que ça ira jusque-là? J'en ai aucune idée, peut-être pas, mais c'est important d'y penser au départ parce que ça conditionne la façon dont on aborde ça et dont on organise ça, la façon dont on va filmer, dont on va se servir du film, et ça, c'est important de le savoir dès le départ. Mais c'est vrai que ça, il y a cette espérance-là. Et je fais le choix d'être en caméra subjective. Parce que je pense qu'en prenant une caméra, en m'imposant de prendre une caméra, parce que c'est pas naturel chez moi, c'est un petit peu l'intimité que j'ai avec elle que j'offre, et ça, il y a personne d'autre que moi qui peut le faire, ne serait-ce que du fait de parler la langue, d'avoir déjà cette relation avec elle. Et elle, c'est un peu leur regard et leur valeur qu'elles vont mettre en lumière, et que j'espère qu'elles mettront en lumière en jouant le jeu d'accepter ou d'avoir une caméra. Dans le groupe, en fait.
Ton projet, si on veut le relire, le comprendre, où est-ce qu'on peut le trouver? Je crois que tu as un site internet sur lequel il est développé.
Oui, c'est en construction, on est en train de développer là ce site internet qui s'appelle donc http://non-nones.baikal, -6, Bangkok.org.
Tu viens de créer une association aussi qui est en lien avec ce projet ?
Oui. J'ai créé une association parce qu'effectivement, s'il devait y avoir à un moment des dons, des fonds liés à l'exploitation d'un film, avoir une association, c'est presque obligatoire pour pouvoir transmettre les fonds, notamment à l'association des nonnes ou dans le cadre d'autres choses, puisque la nonnerie, il y a quelques ruines, il y a un problème d'eau, il y a plein de choses à faire. Je connais le terrain, c'est vrai, on est déjà dans cette démarche-là avec des assos locales aussi pour essayer de retaper ces ruines, d'en faire une pièce où elles peuvent accueillir un professeur de tibétain, par exemple, qu'elles logent aujourd'hui dans la nonnerie, à défaut d'avoir une place pour. Donc il y a plein de choses à faire, mais et là, une association aidera peut-être, effectivement.
Merci Caroline.
Ben, merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardeailleurs.org.